Voici les démêlés de Robert Pilote.
Midi 50 minutes, donc je vous le rappelle, il y a du mouvement, un petit peu de mouvement dans l'histoire de Jonathan Bété. Délai d'abord interminable dans ses procédures visant à le reconnaître coupable de possession de matériel pornographique juvénile. Alors, il a été arrêté, vous vous en souvenez, là, il y a peut-être deux ans. Non, mais ça fait quand même... T'sais, on n'a pas de justice qui est expéditive, c'est le cas de le dire, au Québec, donc déjà 2 ans. Et puis, Jonathan Bété, donc, aujourd'hui, selon ce que TVA Nouvelle a appris, serait toujours dans la mire des enquêteurs de la Sûreté du Québec. Au moins 4 personnes ont été interrogées au cours des 3 dernières semaines. Des gens qui ont été invités à décrire Jonathan Bété, ses habitudes, ses agissements. Les policiers les ont rencontrés, selon Jonathan, dans le but d'étoffer leur dossier concernant la possession et l'accession à de la pornographie juvénile. Est-ce que c'est aussi dans le but de se rapprocher? Parce que les 4 personnes en question travaillaient avec Jonathan Bété avant la disparition de Cédrica Provencher. Alors, est-ce qu'il y a là ici une tentative pour tenter de voir de quelle façon est-ce qu'il aurait pu être impliqué dans la disparition de Cédrica Provencher. Je vous rappelle qu'on va vous remettre les billets, les fameux billets pour assister au match de boxe, cette carte de boxe historique au Centre Gervais Auto. J'ai vérifié tantôt, de toute façon, on aura l'occasion de rejoindre Roger Lavergne du club de hockey Cataracte de Shawinigan qui organise l'événement, vous le savez, le 16 avril prochain. J'ai vérifié avec lui. Écoute, les billets s'envolent rapidement. On n'est pas encore sale comble, mais on n'est pas loin d'être sale comble. Ça, c'est la première chose. Donc, on va vous remettre les 2 paires de billets qu'on vous a promis parmi tous ceux qui ont participé cette semaine à nos tribunes téléphoniques et ceux également qui se sont inscrits sur notre site Internet. La deuxième affaire, on devait vous remettre encore aujourd'hui et on va le faire, on va tenir notre promesse. On va vous donner une paire de billets pour assister au rodéo présenté en marge du Festival Western de Saint-Tite. Dans l'actualité, c'est ce qui retient l'attention avant d'aller rejoindre notre démêlé du jeudi, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Ce qui retient notre attention, c'est un sondage qui démontre que la coalition Avenir Québec se maintient en tête. Cependant, la CAQ a envoyé l'un de ses porte-parole devant la presse plus tôt aujourd'hui pour dire un instant, oui, on est fort actuellement dans les sondages, mais il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Les libéraux sont de redoutables organisateurs de campagne électorale. Ils vont remonter, ils vont se rapprocher. Et le PQ n'a pas dit son dernier mot également. Sauf que, malgré tout, la CAQ se maintient en tête dans les sondages. Est-ce que c'est ce qui provoque cet exode au Parti libéral? C'est incroyable, les têtes tombent les unes après les autres, des ministres ou des personnes influentes qui décident de ne pas se représenter aux prochaines élections. Simon-Pierre Savard-Tremblay, bonjour.
Bonjour, Robert.
Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un phénomène qui est courant? Est-ce que ça arrive maintenant parce qu'on risque d'assister à l'alternance du pouvoir?
Écoute, les libéraux, c'est comme la neige au printemps. Quand on dit c'est fini, c'est derrière nous, il n'y aura pas d'autre, ça revient tout le temps. Moi, si demain matin, il se met à neiger, je ne serais pas étonné. On va me dire, au début, je vais être en maudit, mais je vais dire, ah, c'est le Québec, hein? C'est le même, hein? Les libéraux, c'est la même affaire. À chaque fois qu'on pense qu'ils sont morts, ils reviennent. Regarde la dernière élection, ils commencent faibles. C'est Mme Marois qui est supposée de devenir majoritaire. Elle était minoritaire. Elle est censée de reprendre le pouvoir, mais cette fois-ci, majoritaire. Finalement, les libéraux reviennent par la grande porte.
Je pense que la grosse différence, je pense que c'est leur base électorale. La base très forte chez les anglophones de Montréal.
Oui. Ben écoute, il y a de ça, mais les anglophones de Montréal donnent une base très forte qui font que jamais ils vont se faire laver. Là. Ça va jamais être comme le Bloc québécois en 2011. Ça va pas passer à 4 sièges demain matin. Là. Ça, c'est sûr. Mais c'est très dur de les donner pour mort parce qu'avec la base anglophone, ça te permet pas de te faire élire tout le temps. Il y a quelque chose d'autre qui se passe quand même chez les Québécois avec ce parti-là. en 2012, tu sais, c'est une campagne que tu as bien connue, même de l'intérieur.
Ouais.
On donnait les libéraux pour morts aussi. Il y avait trois mandats, pas deux, trois. D'habitude, un parti au Québec, c'est deux mandats. Eux autres, il y en avait trois derrière. Il y avait des scandales. Il y avait eu deux commissions d'enquête sur la corruption, que ce soit dans l'industrie de la construction ou que ce soit dans la nomination des juges. Et pourtant, ils sont passés à quatre sièges d'être réélus avec Jean Charest à l'époque.
Et d'ailleurs, ce que les organisateurs à l'époque disaient, c'est que faites attention. Puis je pense que c'est Jean Charest qui disait ça. Ne vous fiez pas aux sondages. Les sondages sous-estiment nos performances éventuelles.
Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, ça a toujours été le cas. Le vote libéral a toujours été sous-estimé, et surtout dans des contextes comme ça où ça brasse, où le gouvernement est très impopulaire. C'est comme si les gens étaient un peu gênés de dire au téléphone qu'ils sont libéraux quand ils se font appeler par les instituts de sondage.
C'est ça.
C'est un peu, puis là, toute proportion gardée, là, je ne fais pas de comparaison hasardeuse avec ça, mais le vote Front National en France, c'est la même chose, c'est toujours sous-estimé, parce que pour des raisons complètement différentes, évidemment, les gens sont gênés de dire qu'ils votent pour ce parti-là. Donc, c'est un peu la même chose quand il y a des périodes de scandale comme il y en a en ce moment, puis comme il y en avait à la fin du troisième mandat de Jean Charest. Mais d'ailleurs, la fin du troisième mandat de Jean Charest, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Toutes les grosses têtes disaient qu'ils ne se représentaient pas. Ils disaient, c'est fini, on revient pas. Et là, c'est en ce moment ce qu'on voit avec ça, mais ça n'a pas empêché le parti de passer proche du pouvoir, de passer à quatre sièges du pouvoir, puis de un an et demi plus tard, revenir par la grande porte triomphalement, là. Donc, moi, les libéraux, je ne les donnerai jamais pour morts. Puis, je t'entendais dans ton intro, tu disais le PQ n'a pas dit son dernier mot, même chose. Hein? Le Parti québécois, c'est un parti qui a été très important, qui a marqué le Québec, qui a encore une bonne base, une base vieillissante, une base qui rétrécit. Mais d'aller chercher un 4-5 points, là, c'est pas impossible hein, qu'ils réussissent à faire ça. D'aller chercher un 4-5 points qui fait toute la différence entre une disparition et un maintien honorable, c'est très, très loin d'être impossible. Jean-François Lisée, on le sait, il est pas mauvais au niveau de la tactique. On l'a vu lors de sa course à la chefferie. Il est peut-être pas très bon une fois assis sur le trône, mais il est bon quand c'est pour gagner, pour réussir à s'asseoir sur le trône. Il est bon pour gagner dans une petite période express pour sortir des lignes, d'avoir une bonne stratégie à court terme. Ça, on a vu qu'il était capable d'être assez bon, comme on l'a vu dans sa course à la direction.
Écoute, tu es dans la peau de Julie Boulay, OK? Tu sais que ton frère risque de se présenter dans Trois-Rivières pour la CAQ, que Sonia Lebel, celle qui est pas sympathique, se présente dans le comté voisin. OK? OK? Donc, tu es toujours dans la peau de Julie Boulay, là, OK? Et tu sais que ton parti est en retard d'un sondage. Est-ce que tu te représentes ou tu te représentes pas?
Mais permets-moi une parenthèse, d'ailleurs, de dire que telle candidate n'est pas sympathique, là. Nous autres, on trouve tout ça a l'air fou, là. Nous autres qui analysons ça à tous les jours, là. Mais c'est quelque chose qui peut vraiment toucher l'électorat, de dire « Ah, je voulais voter pour, je l'ai rencontré, poignée de main molle, regard fuyant, j'ai plus le goût maintenant. » C'est quelque chose qui parle à certaines personnes. Ma parenthèse étant fermée, si elle dit elle aussi qu'elle se représente pas, on va dire « Bon, c'est la crise au Parti libéral, un autre qui se représente pas, une de plus, bon, une de plus. Bon. » Ce qu'elle pourrait faire, c'est une stratégie comme Clément Gignac l'avait fait en 2012. Tu te rappelles du ministre Clément Gignac?
Oui, oui.
Il avait un ministère économique à l'époque. Bien, à l'époque, ça ressemblait à aujourd'hui, c'est-à-dire que les grosses têtes ne se représentaient pas. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est une stratégie qu'on voit une fois de temps en temps. Il est allé se présenter dans Taschereau à Québec contre Agnès Maltais,
okay.
Qui est une candidate vedette du Parti québécois, dans un comté qui est péquiste depuis, je pense, 20 ans.
Okay.
Donc, il savait qu'il allait perdre. C'était comme une manière de se retirer, mais de ne pas se retirer en même temps. Autrement dit, de ne pas dire qu'il ne se représentait pas, de ne pas dire un de plus qu'il n'ose pas, mais de dire non, je veux juste changer de comté. Je ne me souviens pas quel prétexte il avait plaidé, mais il y a toutes sortes de prétextes, comme de dire je veux me rapprocher de ma famille. Bref, les raisons sont toujours bonnes de dire je change de comté, mais tu t'en vas d'une place que tu vas perdre. C'est ta manière de ne pas revenir, mais en disant pas que tu ne reviens pas.
OK. Je suis pas sûr qu'elle va faire ça, là, mais t'as répondu en politicien. Je te souhaite de passer de belles journées.
Ben non, mais moi, tu m'as demandé quelle tactique je lui suggérais si elle voulait se retirer honorablement.
Non. Tu te présentes-tu ou tu te présentes pas, compte tenu du topo dont je te parle maintenant? Est-ce que t'as le goût de partir ou t'as le goût de te battre, de rester et d'être même dans l'opposition dans le cadre d'un gouvernement minoritaire, comme elle a fait d'ailleurs lors de la campagne impliquant Pauline Marois, la campagne du printemps érable?
Oui, mais là, peut-être qu'elle a fait le tour du jardin aussi. Là, ça, c'est à elle de savoir si ça y tente ou si ça y tente plus.
Ouais, j'ai une moyenne de bébite politique.
Moi, la stratégie, la porte de sortie que je te proposais, que je lui propose selon ta question, c'est dans le scénario, évidemment, où ça lui tente plus. Une manière de dire « je reviens plus, mais je ne désavoue pas mon chef ».
Je te souhaite de passer une belle journée.
À bientôt, Robert.
À bientôt. Simon-Pierre Savard-Tremblay, le démêlé du jeudi. Tout à l'heure, je vais parler des billets pour le gala de boxe à Shawinigan. C'est le 16 juin. Je pense que j'ai dit 16 avril. Je ne vais pas t'accrocher au mois d'avril. C'est comme si j'ai été traumatisé cette année au mois d'avril avec le temps qu'il a fait. Pendant du temps, vite, avant d'aller à la pause actualité, Environnement Canada nous raconte que c'est de la pluie qui est prévue aujourd'hui, des nuages, même chose pour demain. Des températures quand même assez chaudes, demain 17 degrés, des averses. Samedi, en fin de semaine, là, on pensait avoir deux belles journées consécutives de soleil. La belle journée, il semble que ce sera samedi avec 18 degrés, des averses pour dimanche, retour du soleil pour lundi. On a au centre-ville à Trois-Rivières 9 degrés. À la pause, Marc-André Pelletier va notamment nous parler dans son bulletin de nouvelles de l'affaire Cédrica Provencher.